nous allons partager la parole de Dieu que nous retrouvons en Hébreux chapitre 12. Nous commençons du verset 12 au verset 17. Hébreux chapitre 12, verset 12 jusqu'au verset 17. Je sais que vous avez toujours lu ces passages et ce n'est pas quelque chose d'étrange pour la communauté qui est devant moi. L'auteur, dans son contexte, veut exhorter ses lecteurs à tenir ferme et adopter un comportement digne des hommes de Dieu, même au moment difficile, au moment de l'épreuve. Et c'est pour cela qu'il commence par dire « Redressez-vous, redressez vos mains qui commencent à défaillir ». Cela nous dit qu'il a constaté une défaillance dans les mains de ses compatriotes, dans les mains de ses frères et sœurs. Il a constaté quelque chose qui n'allait plus. Évidemment, en tout moment d'épreuve, en tout moment difficile, nous sommes tous humains et nous perdons souvent courage, nous pouvons douter. Je veux alors vous amener à réfléchir sur un thème. Entretenir l'amertume dans son cœur, c'est tout simplement un danger d'être déchu de la grâce divine. Est-ce que je suis clair? Entretenir de l'amertume dans son cœur, c'est tout simplement la voie facile, la voie simple d'être déchu de la grâce de Dieu. Et pour cela, je veux axer ma communication sur quelques idées comme le soutien mutuel au moment d'épreuve, la marche droite et la recherche de la paix et de la sanctification comme la voie obligée de survivre dans les moments difficiles. Je parlerai aussi de ce que nous avons lu dans les textes, la racine de l'amertume, capable d'infecter toute la communauté. Et je veux citer, en donnant l'exemple d'Ésaü, qui a perdu cette grâce une fois pour toutes et qui ne l'a plus récupérée. Alors, nous y allons. Et je vais encore reprendre mon thème. Entretenir toutes sortes d'amertume dans son cœur, c'est couler droit vers la perte de la grâce de Dieu. L'auteur, comme nous aujourd'hui, constate qu'à cause des moments difficiles que traversaient ses frères et sœurs dans la foi, nombreux d'entre eux chevauchaient entre la vie chrétienne et le retour dans la vie qu'ils ont abandonnée, la vie d'hier. Quels pouvaient être ces moments difficiles? Vous et moi, vous le savez. Les chrétiens du temps de cet auteur étaient soumis à la persécution et ils étaient demandés jour et nuit de renier leur foi. Et nombreux parmi eux commençaient déjà à douter et dire, mais si on a lapidé Étienne, si on a décapité Jacques, si on a fait ceci, ah, moi en tout cas, je pense que le mieux serait de rester en paix avec ceux qui gouvernent parce que je ne veux pas m'attirer la foudre de leur colère. Et là, l'auteur constate que devant les problèmes de la persécution, devant les problèmes de tout genre qu'ont traversé ses frères et sœurs, il y a de ceux-là qui ne pensaient plus continuer. Il y a de ceux-là qui doutaient déjà de Dieu et qui pensaient que rien ne sert à demeurer dans cette foi et qui commençaient à languir dans leur foi, dans leur vie chrétienne. Je le sais bien, comme vous aussi. Les mains qui défaillent. Nous trouvons cela dans les autres écrits de Paul, lorsqu'il demande aux hommes de toujours prier les mains levées et de tenir ferme et de prendre toutes les armes du Seigneur. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque il y a un parmi nous qui a défailli et qui a renié la foi, il devient pour nous tous comme une écharde et comme une occasion de chute pour plusieurs. Ça c'est vrai. Et lorsque il agit dans sa perdition, il nous amène à nous énerver, à nous fâcher. Et lorsque nous sommes énervés, lorsque il y a comme une rancœur, une amertume qui commence à pousser dans nos cœurs, nous sommes nous aussi tentés, soit à nous venger, soit à les traiter comme quelqu'un qui n'a plus droit ni à la parole, ni à la vie, ni à la communion. Et l'auteur nous dit, faites attention, ceux-là qui ont déjà faibli parmi vous risquent de vous infecter, risquent de vous entraîner. Parce qu'ils vont vous énerver absolument. Ça, vous savez bien. Si à la chorale, il y a quelqu'un qui a déjà dévié, qui a chaviré, il risque d'infecter plusieurs parmi vous. Parce qu'il n'accepte plus les réprimandes. Il n'accepte plus les corrections. Et il devient quoi? Une occasion de chute pour plusieurs. Si à la chorale, quelqu'un entretenait une amertume donnée, vous pensez qu'il souffrira seul? Il va aussi vous faire souffrir parce que son amertume va sortir des rejetons. Et ce sont ces rejetons-là qui vont vous mettre tous à mal. Et là, vous risquez, vous courez les risques d'être déchus de la grâce de Dieu tous. Et pour cela, l'auteur nous invite dans un premier temps à veiller à ce que les faibles, ceux-là qui commencent à faiblir, soient entretenus, soient ramenés avec douceur et avec amour. Et pour cela, il vous dit, il faut rechercher les voies les meilleures pour vivre en paix avec ceux-là qui même ne pouvaient plus vivre en paix avec vous. Parce que lorsque quelqu'un a renié la foi, il peut et il est capable de troubler la quiétude de nous tous. Il est capable de nous entraîner dans les querelles et alors nous conduire à perdre la sainteté. Parce que la sainteté de l'esprit est conséquence de nos relations interpersonnelles. Est-ce que cela est vrai? Moi, j'y crois. La sainteté de nos cœurs, la sainteté spirituelle, est aussi en dépendance avec les relations que nous entretenons avec les frères et sœurs. Et il dit, recherchez la paix avec tous. Ce n'est pas avec les justes seulement. La paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que Dieu nous soutienne. La paix avec tous, ce n'est pas une mince affaire. Comment vous vivrez en paix avec quelqu'un qui jour et nuit ne respire que menace, ne respire que meurtre, ne respire que conflit? C'est encore possible. Lorsque vous avez constaté qu'un frère ou une sœur a déjà renié la foi, qu'il y a comme une racine capable de semer de l'amertume et du trouble entre vous, la première des choses, c'est d'aller vers lui, dans toute humilité, dans tout esprit d'amour et de simplicité, lui parler de cette grâce que nous avons héritée et que nous risquons de perdre lorsque cette rancœur croît en nous et nous amène à entretenir une relation floue. L'amertume nous détruit. Lorsque nous avons perdu cette paix avec tout le monde, carrément l'amertume pousse. Et l'amertume vous amène à votre propre destruction. Et lorsque dans la communauté, moi je suis détruit par cette amertume, par la colère, je vais infecter les autres. Et cette amertume peut s'extendre jusqu'à embraser toute notre communauté et vous risquez de voir une communauté déjà malade et qui risque d'infecter une autre communauté et ça devient flou et nous perdons cette grâce du Seigneur. Lorsque quelqu'un a entretenu l'amertume dans son cœur, il se détruit lui-même en perdant d'abord la paix que nous procure le salut en Christ. Lorsque j'entretiens n'importe quelle racine amère en moi, je perds cette paix de l'esprit que Dieu m'a conférée lorsque j'ai confessé ma foi et lorsque j'ai reçu son Esprit Saint. J'ai perdu cette paix, c'est vrai, mais ça ne s'arrête pas là. Même dans ma vie de tous les jours, je perds aussi la joie de vivre. Je perds aussi les chances de prospérer dans ma vie. Je ne sais pas si vous avez vécu les cas de quelqu'un qui a perdu la paix avec lui-même en développant cette amertume dans son cœur. Vous l'avez connu? Il devient furieux. Et moi, j'en ai connu un. Partout où il passait, il grinçait les dents comme si il souffrait de quelque chose. Et toutes les fois que vous le voyez, il n'a plus la joie. Même quand vous le saluez, il a tendance à vous gronder. Parce que tout simplement, il a entretenu l'amertume. Et il est arrivé un jour où il avait besoin de défouler son amertume. Et je l'ai vu perdre même le langage. Il n'a jamais bégayé dans sa vie. Mais parce qu'il était en face de quelqu'un qu'il n'aimait plus voir, quelqu'un contre qui il a développé cette amertume, je l'ai vu perdre le langage. Et il bégayait, il n'a pas pu dire même deux mots. Ça c'est déjà un problème. Mais dans sa vie de chaque jour aussi, parce qu'il a manqué la paix avec et sa femme et son mari, et ses enfants plutôt, il a aussi manqué la prospérité. Avec sa femme, c'était devenu plus compliqué. Parce que l'amertume vous amène à développer d'autres sortes d'échafaudages autour de quelqu'un. Vous pouvez l'habiller déjà de tous les maux, même les maux qu'il n'a jamais portés. Même si quelqu'un était beau ou belle, lorsque tu as développé de l'amertume contre lui ou contre elle, vous trouvez qu'il n'y a plus d'autre personne laide au monde que cette personne-là. Même s'il faisait du bien, ça devient du mal pour vous. Je pense que nous sommes dans la chair et nous avons souvent vécu des conditions et des situations pareilles. Mais pour ces messieurs-là, parce qu'il a aussi infecté sa femme. Il avait de l'emploi, ça c'est vrai. Mais les emplois à mandat, ce sont des emplois compliqués. Et lorsqu'il était fait mandat, sa femme priait régulièrement pour qu'il n'ait plus du boulot. Est-ce que ça c'est une prière normale? Toutes les fois qu'il sortait chercher de l'emploi, sa femme se mettait à genoux et dire, Seigneur, si je suis sa femme, si je suis ta servante, qu'il demeure chômeur toute sa vie. Et lui, quand il sort, il ne se rend pas compte de ce qui est resté à la maison. Pourquoi? Parce que lorsqu'il avait son emploi, lorsqu'il était payé, il ne parlait plus couramment le swahili à la maison. Il parlait beaucoup plus français. Et tout était négatif. Mais ça c'est quoi ça? Mais faites attention avec moi, je ne suis pas n'importe. Et alors? Mais aussi, sa femme ne pouvait pas accéder à son compte. Sa femme ne savait pas combien il touche, parce qu'il y a eu l'amertume qui s'est développée dans leur foyer, et c'était perdu une fois pour toutes. Il ne pouvait plus récupérer la paix perdue, ni la joie de vivre à la maison. Et les enfants en souffraient aussi. Et Dieu est bon. Il a plusieurs voies de corriger. Et lorsqu'il vous corrige par sa pédagogie, il ne faut pas croire que tout est perdu. Il vous laisse quand même une brèche, une voie de sortie. Lorsque il communique sa parole en vous disant, recherchez la paix avec tous. Et sans cela, vous êtes déchu de la grâce d'avoir un bon emploi, vous êtes déchu de la grâce de vivre en paix chez vous, vous êtes déchu de la grâce de monter même en promotion, vous êtes déchu de la grâce d'être en bonne santé. L'amertume détruit notre santé. Et comme il sortait toujours et que sa femme reste en train de prier, de maudire, il a fait longtemps sans emploi. Parce que toutes les fois que lui sort avec léger l'honneur, sa femme aussi rentre à la maison prier, Seigneur, akoufe oulo oulo. Les mamans, vous priez de la même manière? Est-ce que vous êtes autorisé de prier de cette manière? Akoufe oulo oulo. Parce que vous avez développé l'amertume tout simplement, il y a encore de l'espoir. Rechercher la paix avec tout le monde et la sanctification. Je reviens sur cet exemple en vous disant, les jours où cette maman est venue participer à un message de prédication qui a interpellé les gens à vivre même en paix avec leurs persécuteurs, comme nous l'avons lu dans Matthieu, n'est-ce pas, aimez même vos ennemis et travaillez pour leur paix. Le message a interpellé cette maman et elle s'est retrouvée, elle a dit, ça c'est vrai, ça c'est moi qui suis concerné dans ces messages. La communication me concerne. Et elle s'est levée humblement, gentiment, simplement, elle a dit, que le Seigneur me pardonne. J'ai perdu la sanctification à cause de cette racine d'amertume que j'ai développé à moi-même contre mon mari, et alors nos enfants en pâtissent, et même notre famille entière souffre. Je demande pardon. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chercher la paix avec ce mari-là. Parce que quand le mari n'avait pas d'emploi, il était gentil. Et la femme pouvait l'approcher et lui dire tout. Il y a des maris comme ça, n'est-ce pas? Il y a des gens comme ça. Lorsque ils n'ont rien, ils sont sérieux. Mais lorsque quelque chose tombe dans la poche, ils deviennent fous. Et alors les jeunes, lorsque j'ai déjà quelques 10 dollars en poche, ça va me servir pour autre chose. Là, vous développez une racine amère. Et cette racine ne produira que amertume, instabilité, mais aussi manque de prospérité, et alors vous serez déchu de la grâce du Seigneur. Simplement, quand elle revient à la maison et dit à son mari, en tout cas je pense que nous devons restaurer la paix entre toi et moi pour que tu survives, pour que je vive. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et le mari, parce qu'il n'avait pas ce qu'il avait toujours enorgueilli, a fléchi. Ils ont prié. ils se sont parlé et le mari a demandé pardon et la femme a dit, désormais je vais lâcher. Désormais je prie pour toi pour que tu aies de l'emploi. Mais si vous voyez cet homme, parce que moi je le connais, actuellement il est béni, sa famille est bénie, la vie des locataires, bye bye. La vie des mandats qui finissent, un contrat de 6 mois, d'une année, il a maintenant un contrat à durée indéterminée. Et cette dame, parce qu'elle a accepté de rechercher la paix même avec une personne compliquée, difficile, elle roule carrosse et je suis heureux de la voir. Les mamans aiment conduire les RAV 4. Et elle roule avec sa RAV 4. Et à un moment donné, je l'avais rencontrée, je lui dis, aïe maman. Elle dit, ah, aïe, serviteur de Dieu. L'amertume là allait me détruire et détruire ma famille. Mais gloire à Dieu qui ne m'a pas laissé tomber dans les châtiments qu'il réserve à tout cela qui renie la foi et qui demeure entretenir leur amertume. L'exemple de cette maman m'a fasciné lorsque j'étais en train d'exploiter cette parole. Rechercher la paix avec tous. Et cette paix produira la conséquence de garder et de vivre dans la sanctification. Et alors, veillez à ce que aucune racine ne pousse au milieu de vous. Une racine commence à pousser d'abord en toi-même. La racine de débauche, parce que la débauche produira aussi cette amertume et vous en souffrirez pour longtemps. La racine de l'impudicité. Le terme qu'a utilisé l'auteur m'a beaucoup aidé. Le terme qu'il utilise pour parler de débauche, c'est pornos. Et pornos, porneia, vous amène tout simplement à réfléchir et à penser au rapport sexuel en désordre. Je me représente que devant moi, il n'y a personne qui a 90 ans. Il n'y a personne qui a peut-être 100 ans. Mais la génération que nous sommes, nous souffrons tous de ce fléau du sexe mal entretenu. Pourquoi laisser les rejetons de la débauche pousser au milieu de vous? S'il y avait un seul débauché parmi nous, qu'est-ce que ça va produire? De l'amertume, n'est-ce pas? Si un débauché venait chez toi régulièrement, parce qu'il hante tes filles, tu seras en paix, tu vas l'aimer, alors que tu sais que c'est un débauché. Il risque d'être affecté par cette racine d'amertume. S'il paraissait dans notre chorale, qu'est-ce qui va advenir? Nous allons perdre l'onction tous. Moi, j'aime mon cours de dialogue pastoral. Et un jour, j'étais avec des pasteurs. Et un pasteur témoigne, il dit, moi, j'avais chassé un imbécile de la chorale. Parce que tout le monde qui venait confesser me disait que c'est un prostitué et qu'il aimait toujours coucher avec toutes mes filles à la chorale. Et à force de recevoir ses confessions, il est allé droit là. Il n'a même pas attendu. Lorsque le dernier a confessé, il s'est mis debout et il a dit, « Toi, petit, c'est tout ce que tu as ici comme besoin. Lève-toi. Fous le camp. Et que je ne te voie plus ici. » Malheureusement, lorsque le pasteur l'a suspendu, toutes ces femmes-là ont dit, « Nous n'allons pas chanter avant que Prézo revienne. » Mais ces Prézo-là, il travaillait toujours pour la gloire de Dieu ou pour sa propre gloire. Mais ces gens aussi, lorsque vous touchez à Prezo, vous avez touché leurs bijoux, vous avez touché à leur trésor caché, et tout le monde, moi je ne vais pas chanter jusqu'à ce que Prezo revienne. Mais va-t'en. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une communauté déjà infectée. Parce que vous avez entretenu un Prezo en qui poussent les rejetons amers. Toutes sortes de débauches que la communauté peut laisser grandir en son sein vous produira toujours de l'amertume et vous risquez d'aller perdre cette grâce que Dieu vous a réservée. Quand vous venez et que toute la chorale a suspendu ses guitares, ses synthétiseurs, vous sentez la joie du Seigneur au milieu de cette communauté. Mais qu'est-ce qui a amené à tout ça? C'est d'entretenir cette racine du mal au milieu de vous. Il fallait dénoncer ça avant le temps. Les mots sont nombreux qui peuvent nous conduire à être déchus de la grâce de Dieu. Je voudrais que nous réfléchissions un moment ensemble et dire, c'est vrai, d'une part, on nous présente l'exemple d'Ésaü qui, en perdant cette grâce, a insisté pour encore l'hériter, mais c'était trop tard. Mais pour toi, il n'est pas encore tard. Peut-être que tu viens de faire longtemps en train de traverser une période difficile à supporter. Dans ta vie conjugale, dans ta vie professionnelle, dans tes relations avec même les voisins, même avec les enfants que tu as mis au monde, même avec tes collègues. Il y a eu un incident qui a produit de l'amertume en toi et tu as développé cette amertume jusqu'à être déçu, jusqu'à être découragé. Ah, c'est une bonne occasion que le Seigneur nous donne encore de dire, reviens. Reviens au Seigneur. Dis-lui clairement, voici là où moi j'ai été choqué et voici l'amertume que j'ai développée, que j'ai entretenue et qui tend à me déshériter de ta grâce. Mais aujourd'hui, parce que ta parole retentit en moi, Seigneur, je demande pardon. Mais remets-moi cette grâce et cette grâce en abondance pour que je vive, pour que ceux-là qui dépendent de moi vivent et en paix et dans toute sanctification, parce que c'est ça la vie à laquelle nous avons été appelés, c'est ça notre vocation. Mais dites un tout petit peu, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a choqué et tu te sens comme si Dieu t'a abandonné, comme si le ciel allait tomber? C'est une bonne occasion de dire au Seigneur, je crois maintenant que le ciel ne va pas tomber. Je crois que je vais surmonter, que je vais dépasser cet obstacle et la vie heureuse est devant moi selon ton plan. Qu'est-ce qui t'a choqué de cette manière? Une déception de cette manière. Recommande cette déception au Seigneur. Il est capable de tout. Il restaure les familles disloquées. Il restaure les âmes en destruction à cause de l'amertume. Et je veux qu'en sortant d'ici, le Seigneur te restaure. Parce que c'est ça le message qui m'a été donné pour te le communiquer, pour te dire, voici le moment opportun, pour que tu reprennes force, vigueur, courage et joie de vivre et aussi prospérité. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu voudrais que le Seigneur te restaure? Alors, débarrasse-toi de toute amertume. Débarrasse-toi de toute racine du mal qui commence à pousser en toi. Un jour, j'avais prêché sur entretenir une racine du mal en soi. Et j'étais très heureux de voir un couple venir à la fin du culte et dire, ah, ils m'ont permis, c'est pourquoi je l'ai dit. Mais dire qu'ils développaient déjà une mauvaise racine. Ils avaient 4 ans de mariage, 3 enfants et une grossesse. Et ensemble, ils ont monté le complot d'avorter Parce qu'avoir des enfants chaque année, vous ne savez plus les porter. Et les enfants comme ça embarrassent souvent, n'est-ce pas? Maman, il y en a ni cagnotte. Maman. Tu prends celui-là, l'autre. Maman. Et ça devient comme embarrassant. Mais c'est ça ton épreuve, n'est-ce pas? Mais raffermis ce qui est en train de languir. Et ils se sont dit cette fois-là, attention si tu es encore conçu, faites attention. Mais attention, elle a conçu à partir d'où? Cette fois-là, on avorte. Et par faiblesse, elle dit, bon, je n'ai pas de choix, si tu veux. Mais le Seigneur l'a interpellé ce jour-là. Et ils sont venus, ils ont dit, nous avions déjà entretenu une racine amère. Que le Seigneur nous pardonne. Ils ont eu des jumeaux de cette grossesse-là. Et moi, j'étais très heureux de participer à la dédicace de ces enfants-là. Des innocents qui allaient périr parce que vous entretenez une racine amère dans votre foyer.